Le théâtre où l'on s'amuse. Une production et réalisation de Jean Chouquet et Philippe Soupeau.
Alfred Jarry, Ubu et au-delà d'Ubu.
Les Russes attaquent !
Et après, que veux-tu que j'y fasse ? Ce n'est pas moi qui le leur ai dit. Cependant, messieurs des finances, préparons-nous au combat.
Le Théâtre National Populaire de Villeurbanne reprend Ubu Roi, à sa façon, dans une mise en scène de Christian Schiaretti. La pièce était déjà au répertoire du TNP Première Manière, avec George Wilson dans le rôle-titre, à ses côtés Rosy Vart. Par la taille, lui arrivait juste au nombril, mais de la voix, elle l'aiguillonnait. « Monsieur Ubu, prêtez une oreille attentive, vous pouvez devenir roi de Pologne. Il suffit de massacrer le roi actuel avec toute sa famille et vous mangerez souvent de l'andouille. » Que le TNP s'intéresse à Ubu était prévisible. Alfred Jarry voulait remettre en cause les formes du théâtre par le théâtre lui-même. Et le défi est toujours à relever. Mais en même temps, Schiaretti observe que la pièce est aux antipodes du projet porté par le TNP. Le père Ubu et la mère Ubu sont des tyrans. Ils distribuent de l'or à la foule de leurs sujets qui ne savent que se battre pour se l'attribuer. « Et demain, payez bien vos impôts !» commande ensuite le père Ubu. On est loin de Jean Villard, qui espérait de l'exercice de la politique un progrès. On est plus près du vieux président Herriot, qui avait des lettres et était une sorte d'Alfred Jarry en moins sportif. La politique, disait-il, c'est comme l'andouillette, ça doit sentir la merde, mais pas trop. Jarry, moins modéré, parlait de merde. Depuis la création, en 1896, et l'époque du président Herriot, l'eau a coulé sous les ponts. « Délicieuse chose que la navigation !» disait Mère Ubu. « Nous voilà maintenant parvenus à l'époque de Donald Trump. C'est cela. Ah, quelle secousse !» Il est temps, en effet, de reprendre Ubu.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Patrick Beignet, bonjour.
Bonjour.
Comment vous présentez un homme 100% connecté à son époque?
Non. C'est tout à fait ça.
Oui. Ouais. Papou dans la tête sur France Culture.
Et oui.
C'est quelle heure, ça, les papous dans la tête?
Ah, ça a changé, c'est un piège, ça. C'est le samedi à 20h maintenant.
Et si vous voulez l'écouter toujours, parce que vous n'êtes pas connecté à votre époque, mais un peu connecté tout de même le dimanche midi, ben, vous podcastez, hein, comme pour la marche de l'histoire. Vous êtes un des contributeurs des œuvres complètes de Jarry dans la Pléiade, parce que les œuvres complètes de Jarry, c'est pas seulement Ubu, c'est pas seulement le cycle d'Ubu, c'est combien de volumes?
3 volumes de Pléiade.
3 volumes, et il est mort à 34 ans. Voilà un homme dont on dit sa pièce principale, Ubu, c'est une affaire de potache, il était avec des copains au lycée de Rennes, il y avait un professeur qui était chahuté, le père Hébert, avec les copains il a monté une sorte de farce collective et il en a fait un parmi d'autres au fond, une pièce de théâtre à peu près représentable, on peut dire les choses comme ça. On peut dire aussi, mais ça c'est votre côté bernanosien, il s'est laissé gouverner par son enfance, comme disait Bernanos de lui-même.
C'est un peu solennel peut-être de faire le passage par Bernanos, mais je pense qu'il y a une grande part de vérité. Oui, Jarry a aussi été un enfant seul, solitaire et un peu en marge du monde réel, je pense.
Il est né en 1873, et il arrive à Paris assez jeune, il passe du lycée de Rennes au lycée Henri IV. Il faut le voir comme un garçon lancé assez vite, même s'il finit pas ses études, dans les avant-gardes littéraires.
Exactement, oui, c'est un moment de grand bouillonnement, il y a la fondation de beaucoup de revues, et ce qu'on appelle les petites revues sont en train de devenir grandes, particulièrement le Mercure de France et la Revue Blanche, où Jarry va faire une bonne partie de sa carrière.
Le Mercure de France, qui était tenu par Valette et son épouse, Rachil, qu'on entendra brièvement, à la fin de l'émission, elle tenait un salon où le jeune Jarry a pointé.
Oui, où il faisait assez facilement scandale, parce que malgré des airs de grande liberté, c'est un salon où tout de même, on restait un peu du côté respectueux, disons.
Et alors, il y a un grand théâtre d'avant-garde à cette époque, on est maintenant donc au début des années 1890, qui s'appelle le Théâtre de l'œuvre, où on joue notamment Ibsen.
Ibsen, effectivement, Strindberg, on est en train de tâcher d'inventer un nouveau théâtre, avec des gens comme Maeterlinck aussi, avec l'influence des marionnettes sur la scène.
Il aime beaucoup les marionnettes, Jean-Yves.
Il aime beaucoup les marionnettes. Vous direz que c'est encore son côté enfantin.
Ouais. Jusqu'au bout, il a collectionné des petits objets.
Oui.
Et il a monté, après la première de Ubu en pantin, en marionnette.
Exactement, il a créé avec des amis un théâtre spécialement pour ça, et il a fini par jouer Ubu sur la butte, en confiant Ubu au Guignol.
Oui, mais alors, d'abord, le public de Guignol. Je veux dire, le public du théâtre de l'œuvre de Lugnier-Pau, en 1896, une première qu'il a préparée, parce qu'il était secrétaire de ce théâtre, et il organisait le scandale.
Oui, et c'est un scandale un peu paradoxal d'ailleurs, parce que les gens qui venaient au théâtre de l'œuvre savaient, enfin, ils venaient pour ça, c'était un théâtre qui jouait, on jouait une fois chaque pièce, plus une répétition générale, ce qui permettait d'échapper à la censure et de faire tout ce qu'on voulait. Donc, ouais, il y a une sorte de manipulation de ce public qui se pense éclairé par Jarry, qui à la fois va au-devant de l'attente du public et la contredit, la contrecarre.
Mais il faut voir qu'il y a des claques à l'époque, et lui, il avait pensé que sa claque pouvait intervenir si jamais il y avait des gens qui applaudissaient, et la claque les aurait hué, donc, c'est en ça, conséquence.
C'est ça. Ouais. Ce qu'un claqueur a rapporté, oui.
Enfin, quand même, il faut imaginer un public qui a encore dans la voix Sarah Bernhardt, oui, prince, je languis, je brûle pour t'aiser, et qui, quand le rideau se lève, entend un merdre retentissant.
Et vous avez assisté, bien sûr, à la première d'Ubu avec Gémier. Ça a dû faire du bruit.
Ouh, aïe, aïe.
Avant le lever du rideau, un petit homme noir, en habit trop grand, surgit de derrière une table de conférence pour pressentir le public au sujet de la situation géographique de l'action de la pièce. Il parla exactement 10 minutes, d'un ton sec et froid, pour dire ceci.
Mesdames, messieurs, vous serez libres de voir en Monsieur Ubu les multiples allusions que vous voudrez, ou un simple fantoche, la déformation par un potache d'un de ses professeurs qui représentait pour lui tout le grotesque qui fut au monde. C'est cet aspect que vous donnera aujourd'hui.
Attentivement, le public écoute la présentation. Dès le premier mot de la pièce, ce sera le scandale. Jean Lorrain, Courteline et des dames clameront leur colère. Gémier, qui incarne le Père Ubu, sera injurié. Pendant 15 minutes, il ne pourra placer un seul mot. Le public se croit mystifié, sifflet, hurlement. Dans les coulisses, Claude Terrasse dirige l'orchestre. Olympien. Henri Boer groupe autour de lui les partisans de Jarry. Quelqu'un criera « Vous ne comprendriez pas davantage Shakespeare ».
Pour l'action qui va commencer, elle se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part.
C'est-à-dire nulle part, parce que le théâtre n'a pas pour objet d'imiter le réel, dans un décor qui ressemblerait au Royaume de France.
En même temps, c'est un but que le théâtre, à cette époque, essaie d'atteindre avec quelqu'un comme Antoine, qui est, c'est l'autre scène d'avant-garde avec le théâtre de l'œuvre dont vous parliez. Et là, on joue des pièces naturalistes. Donc, il y a une recherche de ce que peut être le théâtre.
Mais à l'œuvre, on est plutôt, j'allais dire, dans l'abstrait. Enfin, c'est un dessinateur abstrait, d'ailleurs, Jarry. Il a imaginé des personnages qui sont abstraits.
On peut dire ça, oui. Enfin, ils sont pas réalistes, en tout cas, je vous le
il
confirme.
Il a la tête de, comment le Père Ubu bah, il a un poire, bonnet bah, ou il a non, il a la tête en poire.
Oui, voilà.
En cône, quoi.
À l'image d'un roi de France, pas si ancien à l'époque.
Donc le théâtre a pour objet de créer des objets inédits.
Oui.
et de ne pas se rapporter à la réalité.
Je ne sais pas si c'est son objet, mais en tout cas, la pratique, c'est effectivement tourner le dos à la réalité. Mais en même temps, le décor du bureau est un décor extrêmement réaliste. C'est un intérieur, il y a une cheminée, il y a des meubles.
Mais ça, c'est une concession, parce que l'œuvre travaille avec des peintres.
Oui, mais je ne pense pas que ces peintres aspiraient à peindre des cheminées spécialement, hein.
Alors, vous pourriez faire la comparaison avec une première qui a lieu un an après, à laquelle vous avez consacré aussi un texte, Patrick Beignet. C'est la première de Cyrano de Bergerac. Ça, c'est autre chose quand même, Cyrano de Bergerac. C'est un héros français.
C'est un héros bien français, oui. C'est pas beaucoup plus réaliste, l'a dit. Hein. Mais l'honneur du théâtre français qui a été atteint par Ubu Roy se trouve rehaussé un an après, effectivement, avec le Cyrano de Rostand.
Alors, nous sommes nulle part, en Pologne. Le père Ubu travaille pour le roi Venceslas, pas longtemps. Il a été roi d'Aragon, c'est-à-dire de Catalogne, c'est-à-dire nulle part aussi. Et c'est peut-être ici une scène imitée de Macbeth. Lady Macbeth recommandant à Macbeth de prendre le pouvoir.
Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener aux revues une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon?
Oh, mère Ubu, mais je ne comprends rien de ce que tu dis.
Tu es si bête.
De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant, et même en admettant qu'il meure. N'a-t-il pas des légions d'enfants?
Qui t'empêche de massacrer toute la famille? Tu pourrais augmenter indéfiniment ta richesse, manger fort souvent de l'andouille et rouler carrosse par les rues.
Rosie Vart avec Jean Bouys, c'est la version télé de Averti, Jean-Christophe oui. Averti. Je voudrais qu'on insiste sur l'andouille. Christian Scaretti dit c'est une pièce où tout le monde s'entre-dévore et où la politique est réduite au rôle de l'andouillette et de l'andouille tel que Edouard Herriot l'avait pensé d'une manière fulgurante.
Oui, vous voulez que j'ajoute quelque chose aux paroles définitives d'Edouard Herriot? Et je ne suis pas certain d'en être digne. On peut penser que c'est les origines bretonnes de la pièce, hein, créée au lycée de Rennes, sont pour quelque chose dans ce triomphe de l'andouille, qui est une sorte d'absolu alimentaire, certainement, à l'époque.
Ah oui, c'est inattendu. Moi, je pensais que vous alliez vous livrer à une critique de la politique comme entre-dévoration. Mais pour le père Ubu, le mauvais droit, ça vaut autant que le bon droit.
Oui,
alors que chez Cyrano de Bergerac, le bon droit l'emporte. Oui, il y croit. Oui, effectivement. Oui. Et vous connaissez cette phrase que vous citez souvent sur le 14 juillet d'Alfred Jarry, qui dit beaucoup de sa pensée politique.
Oui, le 14 juillet célèbre les massacres de septembre.
Oui, c'est une date abominable parce que c'est l'anniversaire des massacres de septembre. C'est fulgurant, ça aussi.
C'est un raccourci extraordinaire.
De la France républicaine. Voilà. Le père Ubu pense à se réfugier en France parce que c'est le pays des lettres et des arts, non? Il y fait chaud l'été, il y fait frais l'hiver, voilà. Il y fait même chaud au mois d'octobre. Mmh. Ouais.
Tout va bien grâce à...
Et les institutions sont mises en vitrine, voilà, tout va bien. Il était progressiste? Non, pas du tout.
Ubu ou Jarry?
Jarry.
Jarry, pas spécialement, non.
Il était même anti-progressiste. Il croyait pas du tout à l'idée de progrès. À la différence de beaucoup de ses contemporains en 1896, 17, 19.
Oui, il croit que la science peut donner à penser. Il n'est pas contre le progrès scientifique, pour autant que la science se conforme à sa propre pensée.
Mais vous parlez de la pataphysique, la science qu'il a inventée, là?
Oui, je pense à un roman comme Le Surmal, qui est une sorte d'exaltation de la science jusqu'à une catastrophe finale.
Alors attendez, ça veut dire que par l'énergie sexuelle, on peut produire de l'énergie en général? C'est ça, Le Surmal?
Vous avez parfaitement compris, oui.
Wilhelm Reich a pensé ça aussi dans les années après 1960.
Jarry, précurseur de Reich, c'est tout à fait probable.
Oui. Alors donc ça se passe en dessous de la ceinture, mais ça peut se passer aussi au niveau de la tête. Voici la chanson des cervelages. Alors là, je comprends pas du tout Patrick Beignet. Elle est où dans le texte, cette chanson du décervelage? Parfois, on la met à la fin de l'acte 5 du Burois.
Oui, mais Jarry, comme tous les écrivains, a le droit au remords, à la réécriture. Il y a des versions scéniques. Il y a ce qu'il appelle Ubu sur la butte. Le texte bouge.
Il n'est pas enchaîné, Jarry à Ubu.
Jarry n'est pas enchaîné.
Bon, alors donc, si vous vous tenez tranquille, vous pouvez avoir droit, dit l'acte 5, scène finale, à la chanson du décervelage.
Quand le dimanche s'annonçait sans nuages, nous exhibions nos beaux accoutrements et nous allions voir le décervelage rue de l'Échaudé passer un bon moment.
Voyez la machine tourner, voyez la cervelle sauter, voyez les rentiers trembler.
Hourra, cornes au cul, Vive le Père Ubu.
Nos deux marmots chéris, barbouillés de confiture, brandissant avec joie des poupins en papier, avec nous s'installaient sur le haut de la voiture et nous roulions gaiement, gaiement vers les chaudées. On se précipite en foule à la barrière, on se fiche des coups pour être au premier rang. Moi, je me mettais toujours sur un tas de pierres pour pas salir mes godillots dans le sang.
Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez les rentiers trembler. Hourra, comme les hockey, vive le Père Ubu.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Et maintenant, on va entendre un point de vue enfin sensé sur Alfred Jarry, dont on reprend Ubu, roi au théâtre de Villeurbanne. C'est Patrick Beignet, celui de Paul Léoto, recueilli à la radio en 1951.
Et Alfred Jarry?
Ouais.
Ah, c'est pourtant un poète mémorial.
Oui, 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 vous savez, faut me laisser tranquille avec ça. Non, non, ça ne marche, je ne marche pas pour tout ça.
Vous ne pressentiez pas en lui le rôle qu'il devait jouer dans la littérature contemporaine?
Bon, et du reste, vous savez, je me refuse à y souscrire. Ce n'est que mon avis personnel. Mais il est carré.
Alors, on va faire comme dans Les Papous dans la tête, dont vous êtes un habitué, en même temps que vous êtes le biographe de Jarry. Je vous laisse commenter.
Au Papou dans
savamment.
La tête. Papou dans la tête, on a le temps de préparer ses réponses. Bon, on voit ici un Léoto qui ne veut pas être naïf, qui ne veut pas s'en laisser compter. C'est son attitude constante. Et je pense que la grande divergence entre Léoto et Jarry, c'était les animaux. Jarry aimait les animaux, mais c'était l'engoulevent, la chouette, et pas les chiens et les chats, comme le faisait plus banalement Léoto.
Mais j'ai lu que Jarry, à la campagne, il avait chez Rachille des valettes, le couple dirigeant du Mercure de France aménageait un moment une sorte de phalanstère à Clamart, il tirait sur les rossignols et les servait en brochette.
Oui, c'est une recette romaine, si je ne me trompe.
Mais c'est une anecdote frelatée, non?
C'est une anecdote, un point, c'est tout, c'est avec ça. Les anecdotes sont tout à fait utiles, elles permettent de ne pas lire hein, quelqu'un comme Jarry. La biographie de Jarry est truffée de ces petites histoires qui occupent le bon peuple, comme dirait Ubu Roy, et vous dispense d'aller lire des livres souvent difficiles.
Mais une anecdote, c'est intéressant si c'est exact. Et j'allais dire si ça fait sens. J'allais dire parce que, comme j'ai employé déjà une fois ce mot, un auditeur m'a dit que c'était un anglicisme. Mais là, les anecdotes qu'on a, elles sont en général fabriquées. Comment on fait la biographie de Jarry? Vous avez tenté deux livres, je crois, sur Jarry, le dernier chez Fayard.
Oui, oui. Écoutez, là, j'ai essayé de faire un sort aux anecdotes, en l'occurrence, puisque c'est d'elles que vous parlez. J'en ai mis tout un lot en bloc au début, oui. Un peu pour m'en débarrasser. Parce que c'est un masque, comme d'une certaine manière l'est le personnage d'Ubu. Jarry a joué avec cette marionnette, il s'est glissé dans le personnage d'Ubu, et pour ses amis, pour une bonne partie de ses contemporains, il était le Père Ubu. Et c'est ce que je disais il y a un instant, ça permet de faire l'économie de la lecture de
Rachille, de Valette, dans le salon sérieux où il pointait, l'appelait le Père Ubu.
Voilà.
Ben nous, on a fait l'inverse, on a mis toutes les anecdotes à la fin, vous savez, comme
oui.
un faux de sauce. Alors vous les connaissez, vous n'avez pas besoin d'avoir en préparé le commentaire, en voici une.
Concierge! Madame la concierge!
Qu'est-ce que c'est?
Monsieur Alfred Jarry! Je ne vois pas la porte!
Ah, c'est ça la porte. Elle n'est pas très haute. Attention à votre chapeau.
Merci. Vous sonnez.
Je vous laisse cet honneur. Voici le cordon. Vous serez, je le crois, très surprise.
Oh, la joie!
Certainement. Le maître de séance utilise l'énergie de ses visiteurs. Sonnettes et chasse d'eau sont commandées par un même cordon.
Je vous salue, Jarry.
Il y a toujours le revolver. Patrick Beignet?
C'était un concentré en 30 secondes. On a tout tout ce dont on a besoin, effectivement.
Ah bah alors allons-y, défaisons la pelote. Il paraît que quand il a rencontré Rachild, elle était en train de tenir une pelote entre ses deux mains et elle lui avait demandé son aide. Alors dévidons la pelote. Là, on a les logements.
Oui, sans beaucoup de précision, mais enfin...
Alors c'est quoi les logements de Jarry?
Les logements, c'est une série... Ce sont les logements de quelqu'un qui n'aimait pas payer son loyer, donc était condamné à changer de logement relativement souvent. Ça va du très pittoresque, comme le logis de sa jeunesse à Paris, à Port-Royal. Ce sont généralement des endroits
hors de l'immobilier.
Hors de l'immobilier, voilà, vous allez au-devant de ce que je cherchais à dire. Ouais. Donc, ce deuxième étage et demi, par exemple...
Ah oui, c'est des étages et demi, c'est pour ça que la porte est basse.
Voilà, mais souvent, il n'y a
c'est
pas
c'est plutôt
tant...
des demi-étages, même, voilà, on va dire, oui.
Mais le pittoresque est dans l'appellation que Jarry avait trouvée, beaucoup plus que dans la réalité elle-même. C'est pas simplement qu'il ait tout le temps vécu dans des lieux excentriques.
Et le revolver?
Oui, eh bien, vous avez quelque chose contre la pratique du revolver?
Non, mais peut-être que ça le faisait passer pour un anarchiste à l'époque.
Oui, je pense que... oui.
Mais c'est exact, ça.
Il me semble, oui. Enfin, beaucoup de témoins le rapportent. Il y a chez lui constamment la création d'un personnage, un excentrique. Mais encore une fois, c'est, à mon avis, pour la galerie.
Mais c'est quand même un excentrique qui aimait aller à l'air, parce que là, on l'a dans un logis parisien. Mais il a aimé habiter la campagne.
Oui.
Parcourir la campagne.
À vélo.
À vélo.
Oui.
C'est un homme de la bicyclette.
C'est un homme de la bicyclette. Il a eu en particulier une célèbre bicyclette qu'il n'a jamais payée à son malheureux marchand, Lavallois. Et oui, il avait le goût du sport.
Alors justement, ce goût du sport, il le fait partager. Dernier extrait que vous connaissez par cœur, la passion comme course de côte. Ah, Jésus, mais j'avais promis Rachild, voici un instant Rachild.
Un jour, Jarry, devant mon mari et devant moi, disait des choses comme il avait l'habitude d'en dire, et il prétendait des choses qui me faisaient un peu... Alors j'ai fini par lui dire, mais dites donc, Jarry, est-ce que vous croyez en Dieu? Voici ce qu'il m'a répondu. Oui, madame, je crois en Dieu, parce qu'il faut un Dieu pour créer un homme comme moi.
Jésus démarra à toute allure, dans la côte assez dure du Golgotha. Il y a 14 virages. C'est au troisième que Jésus ramassa la première pelle. Sa mère, aux tribunes, s'alarma. Le bon entraîneur, Simon de Cyrène, de qui la fonction eût été sans l'accident des épines de le tirer et lui couper le vent, porta sa machine. Jésus, quoique ne portant rien, transpira. Il n'est pas certain qu'une spectatrice lui essuya le visage, mais il est exact que la reporteresse Véronique de son Kodak prit un instantané. La seconde pelle eut lieu au septième virage, sur du pavé gras. Jésus dérapa pour la troisième fois sur un rail au onzième. Les demi-mondaines d'Israël agitaient leurs mouchoirs au huitième. Le déplorable accident que l'on sait se place au douzième virage. Jésus était à ce moment dead heat entre les deux larrons. On sait aussi qu'il continua la course en aviateur, mais ceci sort de notre sujet.
Encore un anglicisme, mais là c'est de la part de Jarry, une lecture par Claude Faure. La passion comme course de côte, c'est pour vous un texte génial.
C'est ce que Jarry appelle une spéculation qu'il mène jusqu'à son terme, pas vraiment jusqu'à son terme puisqu'il abandonne la partie aviateur. C'est le genre d'exercice un peu facile, disons.
Vous trouvez ?
Ah oui, enfin un peu oui.
Mais vous êtes toujours à la recherche d'un sous-texte sous la surface du texte. C'est ça qui est intéressant chez Jarry. Un éminent spécialiste de Jarry qui a commencé l'édition de la Pléiade, le regretté arrivé, disait que tout est polysémique chez lui.
Oui, mais là on peut s'appuyer sur la déclaration brève de Rachild qui dit, et ça c'est que certainement pour Jarry la question de la religion est une question ouverte. Une bonne partie de son œuvre le montre. Et bon, il y a une façon de s'en tirer, disons, si je puis dire, par le burlesque, par la caricature, c'est la passion considérée comme source, comme course de côte. Mais il y a aussi dans La Dragonne, par exemple, son dernier roman inachevé, il y a une sorte de façon de décoller de la réalité pour entrer dans ce qu'il appelle la nuit des temps. Et là, nous sommes en pleine invention mystique, disons.
Mais vous faites le rapport toujours, puisque il a été gouverné par son enfance, avec la Bretagne qu'il a connue jeune, la Bretagne immobile, la Bretagne des calvaires de Paul Gauguin.
Oui. La Bretagne d'avant Renan, si on peut dire. En fait. Oui, et c'est pour lui un réservoir d'images, de sensations tout à fait intenses. À quoi il revient souvent.
Alors, si on fait des va-et-vient qui vont provoquer de l'électricité, en même temps, c'est la figure tutélaire, nous dit-on, du surréalisme.
C'est une des figures tutélaires du surréalisme, mais pourquoi voulez-vous que ça provoque de l'électricité ?
Non, mais à cause des rapprochements que je fais entre la Bretagne de Gauguin et le monde de Breton.
Écoutez, Breton avait une fascination pour la Bretagne, de toute manière. Un homme, je ne plaisante pas sur son nom, mais enfin, il y a toujours eu un appel chez lui vers une certaine mythologie celte, disons, qui se réalise en partie dans la Bretagne. Et je crois qu'il est un de ceux qui ont compris Jarry à un moment où la réduction à Ubu était dominante dans la lecture française.
Et le théâtre de l'absurde, c'est-à-dire qu'il faut voir les mots en dessous ou au-delà, je ne sais, de l'écorce des mots.
Oui. C'est un langage bien savant que vous employez, l'écorce des mots. Écoutez, oui, dans Ubu Roi, dans Ubu en général, il y a une façon de détraquer le théâtre par l'insistance, par la parodie, par toutes sortes de procédés qui nous conduit peut-être au-delà de l'écorce des mots.
Non, mais j'essaye d'être savant parce que vous êtes quand même un des pontes de la pataphysique qui a été inventé le premier absolu en 1, enfin, à la date de la naissance de Jarry. Il a été inventé par Jarry, mais il existait bien évidemment avant même qu'il ne devienne conscient. C'est que c'est quoi la pataphysique ? Vous pouvez nous le dire en secret ?
Oui, ça n'a rien de secret. C'est écrit plusieurs fois dans Faustrolle et dans d'autres écrits de Jarry. La pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires. Et même à la dernière ligne de Faustrolle, avec un point de suspension dont on ne sait si c'est dû à l'inachèvement ou à une volonté de Jarry, la pataphysique est la science.
Eh bien, ça nous amène à l'émission qui va suivre. Je veux remercier Ilinka Negulesco, Franck Olivard, la préparation de cette émission, Philippe Duclos, la technique, Audrey Ripouille, la réalisation, et vous, Patrick Beignet, chez Fayard, votre Jarry.
Et maintenant, comme vous avez bien écouté, et vous êtes tenu tranquille, on va vous chanter
la chanson de la tête au carré.
Ah, enfin une émission scientifique, Mathieu Vidard.
Très bien, je connaissais pas ça.
Le programme, c'est
Bruno Latour, notre invité dans un instant.